Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Manille sud-est asiatique hétéroclite, fait pour accueillir les rangs. Manille pittoresque, faite pour celui que le pittoresque peut distraire de lui. En quête de quoi ?
Mes côtés aujourd'hui pour causer du Festival international du film d'Amiens, le FIFAM, et son édition donc 2025. On a un tout petit peu de retard, mais bon, on fait ce qu'on peut, l'actualité est riche. À mes côtés se trouve donc Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma et enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
Également présent dans ce studio, alors attention petit chat, cache-toi, hein, puisque c'est le loup-garou Picard, alias Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme et bonjour Johan et bien évidemment bonjour à toutes.
Mon cher Thomas, tu es allé te promener dans la belle ville d'Amiens, que tu connais bien d'ailleurs, puisque tu y habites, pour assister au Festival international du film d'Amiens, donc son édition 2025, sa 45e édition qui s'est tenue du 14 au 22 novembre. L'occasion, alors, de rencontrer un de tes coups de cœur de l'année précédente, mais ça on en parlera dans la prochaine émission. Là, pour cette première émission, l'occasion pour toi de faire le tour du palmarès. On va pouvoir revenir sur le palmarès. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on fera connaissance, parce qu'il n'est pas forcément très connu en France, et tu vas nous le présenter, avec un certain Nick Deocampo. Alors, tout d'abord, Thomas, le palmarès de cette édition 2025, quel est ton point de vue, quel est ton avis sur ce palmarès d'une édition placée sous le signe de l'apocalypse, des villes en mouvement? Et puis, bien sûr, de cette compétition, court-métrage, long-métrage, comme on a à chaque édition. Bah, Thomas, je te propose déjà peut-être de revenir, avant de parler des longs, sur la compétition court-métrage.
Il y avait donc 13 courts-métrages en compétition. Sur les 13, moi, je n'en retiens que 3. Un film d'animation qui s'appelle « Dieu est timide ». Alors, un film d'animation assez particulier. Je ne suis pas très fan du graphisme, mais c'est un film qui est quand même plutôt intéressant. Alors, c'est un film réalisé par Jocelyn Charles. Et c'est lors d'un voyage en train, Ariel et Paul s'amusent à dessiner leur plus grande peur lorsque Gilda, une étrange passagère, s'invite dans leur confidence. Son expérience de la peur ne semble néanmoins pas aussi innocente que leur dessin. Alors c'est un film assez étrange qui est très perturbant, qui est assez glauque. Hein, et on y parle en fait. Cette dame raconte son expérience avec son mari qui a eu un accident et puis qui est plus ou moins handicapé, qui parle la nuit dans son sommeil. En fait, elle se rend compte qu'il est en contact avec Dieu ou quelque chose comme ça. Enfin, qu'il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Elle lui pose des questions et puis au bout d'un moment, on finit par les menacer. Il faut arrêter de poser des questions parce que sinon ça va mal se passer. Et donc, elle recommence à poser des questions à l'une des deux jeunes femmes dans le train, en l'hypnotisant pour avoir le fin mot de l'histoire. Sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce qu'il y a un dieu, etc., etc. Et ça va pas bien se finir, quoi. Donc c'est un court-métrage assez curieux, que je recommande vivement s'il y a moyen de le voir. Donc c'est Dieu est timide de Jocelyn Charles. Et après, il y a aussi un que j'ai beaucoup aimé. Un court-métrage documentaire qui s'appelle Flowers Stand Silently, The Witnessing. C'est un court-métrage écossais réalisé par Théo Panagopoulos, apparemment un cinéaste qui a grandi en Palestine. Et il a fait son film à partir d'images d'archives documentaires sur les fleurs en Palestine. À première vue, on se dit que ce n'est pas très intéressant, hein, mais si, pourtant, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Déjà, il y a le grain de l'image de l'époque, hein, 16 mm, avec ce grain très particulier propre à la pellicule. Et surtout, c'est qu'au fur et à mesure qu'on voit ces images de fleurs, de végétation en Palestine, c'est qu'il y a un sous-texte quand même, un sous-texte qui, évidemment, résonne, fait écho à la situation actuelle. C'est que, au fur et à mesure que le film avance, on voit des Israéliens, mais on voit pas beaucoup de Palestiniens, en fait. Et donc, tu as une voix off aussi du réalisateur qui raconte un peu son histoire, etc. Et qui dit, quand il a visionné tous ces rushs de documentaires, il dit, bah, finalement, on voit pas beaucoup de Palestiniens. Donc, on finit par en voir, il les a montés, hein, mais effectivement, ils sont très peu présents à l'image. Donc, c'est un film, moi, je crois que c'est celui que je préfère. Parce que j'aime bien le principe, c'est plus ou moins expérimental, enfin c'est documentaire, j'aime bien le principe, et puis je trouve qu'il est beau, il est bien fait, la façon dont il gère le son, l'image, j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est une fiction qui a eu le Grand Prix. Alors, je m'attendais à ce qu'il ait le Grand Prix. C'est le quatrième singe qui est réalisé par Xin Wang. Le quatrième singe, ça raconte une bavure policière. Voilà, en fait. C'est une bavure policière qui s'est déroulée en mars 2017. C'est le meurtre de Liu Shaiyo, qui est tué à son domicile devant sa famille lors d'une intervention de la brigade anticriminalité dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, je trouve que le film est bien écrit, il est bien construit, parce qu'il est écrit selon différents points de vue. On a différents points de vue. Le point de vue d'une des filles de ce monsieur, qui donc est tué par la police, qui est témoin d'une première partie de la scène. Et puis le point de vue d'un voisin, et puis le point de vue des policiers à la fin. Et donc c'est découpé en chapitres là, celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas, celui qui ne dit rien, enfin comme les trois singes, quoi. Et moi je trouve que c'est plutôt efficace, et ça met en avant aussi, c'est vrai, une bavure policière dont qu'on connaît peu, hein, qui a fait parler d'elle à l'époque. Ce que je reproche au film, moi je trouve que le film est bien construit parce que il parle des préjugés, de rapport à l'autre, etc., du racisme ordinaire. Mais ce que je reproche, moi je refais un petit reproche, c'est à la fin il tombe dans le didactisme avec des images des manifestations chinoises de l'époque. Qui ont manifesté contre le fait que les policiers ont d'abord été blanchis dans cette affaire, quoi. Parce qu'ils se sont défendus, soi-disant que c'était de la légitime défense, alors que ce monsieur, en fait, il fait cuisiner dans sa cuisine. Je crois que toi, Jérôme, tu l'as vu aussi.
Le film, en fait, justement, les images d'archives, à la fin, moi, elles ont le mérite de me remettre dans l'ambiance, en fait, parce que j'avais oublié ce fait divers, puisque, bon, c'est triste à dire, c'est presque une bavure parmi d'autres. Hein, c'est pas ces dernières années, on a eu quand même, enfin, c'est pas que ces dernières années, hein, d'ailleurs, il y a eu Maurice Rafchus qui a écrit pas mal sur le sujet des bavures policières en France. Il y a eu énormément de bavures policières sur les 50-60 dernières années, et qui se sont, d'ailleurs, c'est aussi ce dont parle le dossier 137, qui n'était pas du tout en compète, mais c'est le sujet du dernier film de Dominique Moll, qui a un peu animé la critique ces derniers mois, puisqu'il est sorti en fin d'année 2025, et qui raconte ça. C'est-à-dire on voit le travail de la police des polices, tout en sachant derrière qu'au final, il y aura un non-lieu. Enfin, alors qu'il y a bien eu bavure et qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés estropiés. Bon, là, on parle d'un mort, hein, donc effectivement, le film est plutôt... Moi, je trouve qu'il est plutôt bien construit, en fait, parce qu'il y a aussi un autre sujet qui est abordé avec ces deux sœurs qui sont différentes. En fait, on voit aussi... il y a une sœur qui est plus occidentalisée que l'autre. Enfin, il y a plein de petits sujets abordés. C'est assez intéressant. Après... Franchement, pour un court-métrage, il y a un gros, gros boulot d'écriture, de découpage, qui laisse croire que, enfin, qui peut laisser croire sans aucun doute que cette réalisatrice, Xin Huang, elle a un avenir tout tracé pour nous faire des longs-métrages. Parce que là, il y a une multiplicité des points de vue, des personnages, tout ça. Tout ça sur 15 minutes quand même, donc c'est assez... c'est assez fort en termes de travail, de découpage, d'écriture et tout ça. Voilà, donc c'est, pour moi, le film a comme principal intérêt... Ah, il nous fait découvrir une cinéaste, puis il a comme principal intérêt, en dehors de ses qualités qu'on a déjà développées, c'est quand même de remettre au goût du jour, effectivement, une bavure qui a été un peu oubliée, qui, pour le coup, est présentée sans manichéisme parce que... tous les personnages nous sont présentés, ne sont pas forcément des stéréotypes, c'est ça qui est intéressant, y compris la police d'ailleurs, donc c'est ça qui est plutôt intéressant, y compris les gens de la BAC. Donc voilà, et tout ça part, comme souvent, de quelque chose d'anodin, c'est-à-dire un voisin qui fait du bruit, quoi. Voilà. Donc, alors maintenant, on ne nous dit pas qui est le quatrième singe, au spectateur de se faire son avis, mais je trouve que c'est un court-métrage, ouais, très très maîtrisé.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Écoutez Culture Prohibée spéciale FIFAM 2025.
Je ne suis pas intéressé plus que ça à la section moyen-métrage parce qu'il y a beaucoup de sections différentes au festival du film d'Amiens, hein, et donc on ne peut pas tout voir. Mais j'en ai vu un qui s'appelle Still Playing de Mohamed Mesba et qui a eu, lui, le grand prix du moyen-métrage. Hein, et donc c'est encore un film qui fait écho à l'actualité, hein, vu que c'est un film qui raconte comment un créateur de jeux vidéo crée des jeux vidéo qui parlent de la situation à Gaza. Et on voit un peu l'évolution de son jeu aussi, de ce que lui il crée aussi des robots, on le voit créer des robots avec ses enfants, participer à des concours de robots dans des conventions, etc. Mais surtout, on voit le réalisateur, il filme aussi des joueurs, un au Mexique, un en Inde je crois, et un aux États-Unis, des joueurs qui jouent à ce jeu et qui en fait découvrent par ce jeu, la réalité à Gaza. Donc c'est en ça que le film est intéressant. Donc c'est Still Playing de Mohamed Mesba.
Still Playing, ouais, qui traite d'un sujet aussi, Thomas, qui est un sujet... Moi j'ai découvert ça par le biais d'un adolescent dans ma famille. Il y a des jeux vidéo en ligne, des jeux vidéo où en fait, effectivement... On peut incarner des soldats qui tuent des Palestiniens, on peut, tout ça sous... au milieu d'une foultitude de jeux, j'ai découvert ça, j'étais horrifié en fait. Et effectivement, c'est un thème qui est loin d'être déconnant, dont on parle en fin de compte assez peu, ces jeux vidéo là qui sont qui ont une forme de soft power et qui ont une autre visée, quoi.
Oui, sauf que là, il s'agit de sauver une famille des bombardements israéliens et de la réunir, de réunir cette famille. C'est le but du jeu. Alors évidemment, ça se passe pas forcément facilement. Hein. Et donc, ce qui crée l'émoi chez les joueurs, parce qu'on voit les joueurs à l'image, hein, et puis comment ils réagissent au bombardement, à ce qu'ils voient sur l'écran quand ils perdent, en fait.
Ouais, effectivement, Thomas, le jeu, là, dans le film dont tu nous as parlé, Still Playing, il a plutôt, on va dire, une visée positive. Mais bon, il faut savoir que ce phénomène existe réellement. Donc voilà, c'est assez effrayant. Et on va passer après les cours, les moyens. On va pouvoir maintenant s'intéresser au long métrage, Thomas, puisque là, il y avait matière. Et là, je pense que là, la compétition long métrage, tu n'as pas zappé de séance.
Bon, un petit mot sur le palmarès. Hein, le Grand Prix a été remporté par La Vie après Siam, un film de Namir Abdel Messi. C'est un documentaire à la première personne où le réalisateur parle de sa vie après la mort de sa mère. Hein. Donc il a eu le Grand Prix. C'est pas le film qui m'avait plus ému dans cette sélection. Et il sort en salle le 28 janvier. Autre film aussi intéressant, qui fait aussi écho à l'actualité, là, d'une façon assez frontale, et qui a eu deux prix. Alors ça fait débat hein, qu'il ait deux prix. Hein, le même film qui a deux prix dans un festival, ça a fait débat auprès du public. Il a eu le prix du jury et le prix du documentaire sur grand écran. C'est Songs of Slow Burning Earth, Ukraine, la guerre ordinaire, de Ola Zurba. Donc c'est un documentaire filmé de façon, on va dire, assez contemplatif, qui montre les premiers jours de la guerre en Ukraine par la Russie, et puis après tout le cheminement, comment ça se passe, du point de vue des Ukrainiens évidemment. Donc il y a des scènes assez frappantes, hein. À un moment on a la caméra, on est dans un véhicule, ça dure vachement longtemps. Et le véhicule avance sur nos routes et puis au fur et à mesure qu'il entre dans des villages, qu'il traverse des villages, etc., on voit les gens s'agenouiller, se signer. On se dit, c'est quand même étrange, quoi. Bon, on finit par deviner assez vite ce qui se passe. Et puis après, il y a un raccord qui nous montre effectivement ce qu'on a deviné. Mais c'est un film qui montre bien comment les Ukrainiens réagissent. Il y a des choses assez choquantes, d'ailleurs. On voit des jeunes Ukrainiens qui jouent à la guerre. Qui jouent à la guerre dans la rue, alors comme si c'était les Russes et les Ukrainiens qui se battent. Et ils vont même jusqu'à reconstruire en bois des mitrailleuses. Mais comme si c'était des vraies. Hein. On dirait vraiment des vraies mitrailleuses, mais en bois. Ils jouent à ça. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'ils jouent à la guerre. Et quand il y a un avion qui passe, alors là, par contre, ils vont se planquer. Alors, c'est un documentaire qui est quand même qui est frappant, qui est assez sidérant et que je recommande beaucoup. Il n'y a pas de date de sortie en salle malheureusement, mais il a déjà été diffusé sur Arte. Alors je ne sais pas s'il est toujours disponible sur Arte. Alors, c'est Ukraine, la guerre ordinaire, Songs of Slow Burning Earth de Ola Zurba. Les fleurs du manguier est un film de Akio Fujimoto qui lui a obtenu le prix du jury étudiant. Alors, c'est un film tourné à la manière d'un documentaire avec une caméra que je trouve assez loin des personnages. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier aux personnages, à ressentir de l'émotion pour eux. Ça raconte l'histoire de Shafi, 4 ans, de sa sœur Somira, 9 ans, qui quitte un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie. Ça rigole pas toutes les séquences, évidemment. Hein. Et donc, on voit le cheminement, comment il passe d'un pays à l'autre, le rapport avec les passeurs. C'est pas un film très gai. Et surtout, quelles sont les conséquences pour les enfants dans ces cas-là, quoi. C'est pas un film qui se termine bien, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est Les Fleurs du Manguier de Akio Fujimoto et il sort le 25 mars dans les salles. Donc, celui-là a obtenu le prix du jury étudiant. Et le prix du public, lui, revient à Ce qu'il reste de nous, un autre film qui fait écho à l'actualité, vu qu'il suit une famille palestinienne qui est entraînée dans le cours de l'histoire, hein, vu que le film se déroule sur 40 ans, je crois. Hein, facile. Hein. Je ne l'ai pas vu. Hein, celui-là, je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'est vraiment bien, qu'il y a du souffle. Bon, c'est un film qui dure 2h25. C'est une chronique familiale. Donc, qui se passe en Cisjordanie, dans le contexte qu'on connaît depuis, depuis l'après-guerre. L'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, j'entends. Voilà. Donc, c'est tout pour la compétition et le palmarès. Après, il y a un film qui n'a pas été primé, que moi, j'ai bien aimé. C'est un film de montage. Derrière les drapeaux, le soleil de Juango Pereira. Alors, c'est un film de montage qui relate le régime dictatorial d'Alfredo Stroessner au Paraguay, dont on ne connaît pas trop l'histoire, en fait, hein, l'histoire du Paraguay, cette dictature qui a duré 35 ans. Bon, le record a été battu par Paul Biya, hein, qui apparemment n'a pas vraiment changé de régime politique malgré que Stroessner a dû quitter le pays sans être forcément rattrapé par la justice. Je crois que tu connais bien cette histoire, Jérôme.
Oui, Thomas, effectivement. Enfin, c'est pas que je connais bien, mais je connais ce sinistre personnage qui est très peu connu, hein, comme tu l'as dit. Alors, j'ai pas vu le film là dont tu parles, puisque malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance cette année, pour diverses raisons, de pouvoir aller assister au festival, même si j'ai vu quelques films qui étaient au festival. C'était le fameux El Rubio, hein, et c'était son surnom. Et il a vécu très vieux, parce qu'il a vécu plus de 90 ans. Encore, il est mort d'un AVC. Il a eu effectivement un des plus longs règnes en termes de dictateur. C'est comme beaucoup, c'est un ancien militaire et qui n'a plus qui a pris la tête d'un coup d'État en 54 et qui après n'a quasiment plus quitté la gouvernance du pays, puisqu'il est resté président du Paraguay quand même de 54 à 89 et quelque part à côté, j'ai envie de dire, presque Pinochet, c'est un petit joueur, quoi. Lui, il a tenu un temps incalculable. Et il a survécu à plein de guérillas. Enfin, je pense que tout cela est développé dans le film, quoi. Et c'était effectivement un dictateur très très dur et qui vivait en plus des économies souterraines et tout ça. Enfin bon, c'est vraiment le type assez peu recommandable et qui était aussi adepte de la torture, bien évidemment. Enfin voilà, et donc si un film met en lumière le parcours d'El Rubio, je pense que ça va être une découverte pour pas mal d'Occidentaux.
Et c'est un tour de force parce qu'il est expliqué au début du film que toutes les archives, enfin la majeure partie des archives audiovisuelles qui concernent toute cette période-là, ont disparu. Et donc ils ont fait que ce qu'ils ont pu trouver au niveau international, etc., et le peu qu'ils ont pu retrouver au Paraguay lui-même. Donc c'est un véritable tour de force et donc ça fait bien le tour de ce long règne d'Alfredo Stroessner. Et moi je recommande vivement, c'est Derrière les drapeaux, le soleil, et ça sort durant le premier semestre 2026. Et il y a aussi Le gâteau du président qui sort aussi durant le premier semestre 2026, Le gâteau du président, qui est un film irakien de Hassan Hadi, qui suit l'itinéraire d'une petite fille de 9 ans qui est obligée de confectionner un gâteau à l'occasion de l'anniversaire du président, c'est-à-dire Saddam Hussein. Parce qu'il faut, il faut un gâteau pour le président. Donc, dans chaque école, chaque classe, il y a quelqu'un qui est désigné pour faire un gâteau en l'honneur du président Saddam Hussein. C'est un film qui est... Alors, c'est pas facile de faire un film avec des enfants comme personnages principaux, parce que généralement, on peut facilement tomber dans la niaiserie, on peut avoir envie de les tarter à chaque plan. Et là, c'est pas du tout le cas. Et ça évite aussi toute forme de misérabilisme. Le film, il est très bien fait, l'image est très belle. Et ça évite toute forme de misérabilisme, mais aussi toute forme de manichéisme. Parce que non seulement ça dépeint bien la situation irakienne à l'époque, hein, donc c'est à l'époque, c'est sous Bush en fait, hein, où les Américains commencent à bombarder l'Irak. Et donc ça ne montre pas forcément les Américains comme des grands sauveurs. Hein, c'est-à-dire que le film ne termine pas bien non plus. Hein. Donc il y a ça, on voit bien que les habitants, les Irakiens, sont pris en étau entre ce dictateur sanguinaire qui était Saddam Hussein et les représentants de la démocratie que sont les Américains qui venaient de déclarer la guerre à l'Irak.
Allez, écoutez-moi, ça va l'autre. المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميحة احمد نايف.
نعم استاذ. جبت اليوم غضبانه عني؟
الكيكه حبيبتي تركيها.
قال الكيكه حتى لو صغيره.
يبي ايش اسويها؟ والله حبيبتي راحت مني.
حسب حساب صرنا فارق؟ جيب هذا واقرا.
تشبيهات ثمنهن ثمر. كيلو طحين بابر زغل. نص كيلو شكر معيشتنا. قمشت كبايد وتنفش كيكتنا.
سعيد سعيد. كان حاج الوادم صحيح. انت فقر وحتى ابوك سحلون السجن. على الاقل عايش.
تروينك جميعا.
ما تدري تروح روح، انا ابقى هنا وما اروح.
ليش؟
لازم اسوي الكيكه.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial FIFA.
Alors, un qui a connu la dictature, et bien, hein, puisqu'il est philippin. Qui est un personnage alors là, qu'on découvre en France à l'occasion de cette fin d'année 2025. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas. Qu'on découvre en France grâce au travail de l'éditeur Carlotta Film aussi, qui s'intéresse beaucoup au cinéma philippin. C'est Nick De Ocampo, qui est donc venu au festival. Alors, en même temps, il a une double actualité parce qu'il y a un livre qui sort, mais ça, on en parlera un peu après. Et Thomas, tu as pu le rencontrer, donc, et un sacré bonhomme, quoi, qui n'a pas sa langue dans sa poche.
Oui, un sacré bonhomme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a beaucoup d'humour, qui a connu la dictature, et pour cause, parce que non seulement il est réalisateur, il est critique de cinéma, il est enseignant, mais aussi il est homosexuel. Donc, être homosexuel sous Marcos en Philippines, c'est pas forcément facile. Surtout qu'il fait des films sur les homosexuels, entre autres. Pas seulement, mais entre autres. Il a des documentaires, donc notamment un film où il parle de son parcours, Private Wars, hein, de son parcours. Il essaie de rechercher un père absent hein, qui a vécu la guerre. Hein, et donc, il explique la naissance de sa propre violence, la naissance aussi de son homosexualité, comment il s'est découvert homosexuel. Donc, c'est un film autobiographique. Après, il a fait d'autres documentaires, Oliver, sur un homosexuel qui fait des shows hein, dans des boîtes. Alors, il y a des choses assez surprenantes, assez marquantes. À un moment, on l'entend dire, on l'entend parler, le fameux Oliver, il dit « Oui, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Spider-Man. » Alors, nous, tout de suite, on pense à Spider-Man, hein, Peter Parker. Non, c'est pas du tout ça. C'est très drôle. À un moment, on le voit mettre quelque chose dans son anus, enfin, il se prépare, etc., etc. Puis en fait, sur scène, il déroule un fil qui sort de son anus, puis il fait une toile d'araignée comme ça, sur scène. C'est curieux. Donc, il fait des films autour de ça, notamment des films sur les révolutions... sur les manifestations féministes aux Philippines. Beaucoup de documentaires, aussi fait un film où il interroge le rapport à son père et puis sa propre homosexualité, où il s'inspire d'un tableau de Rembrandt. Donc c'est un court-métrage qui s'appelle « Isaac ». Donc c'est un cinéaste plutôt engagé qui n'a évidemment, comme tu l'as dit, pas la langue dans sa poche, ni la caméra d'ailleurs. Et il a quand même réalisé plus d'une cinquantaine de films. Hein. Donc là, on n'en a vu que six films, une fiction et puis cinq documentaires.
Plus de 50 films et aussi visiblement beaucoup d'essais de critiques de cinéma, beaucoup d'essais aussi pour défendre le cinéma philippin. Et Carlotta nous permet de découvrir le travail de Nick De Ocampo en, en compilant là, tout ça dans un gros livre, un gros livre vert, un beau pavé, qui s'appelle donc Une traversée du cinéma philippin entre répression et subversion. Et donc c'est signé Nick De Ocampo. C'est sorti donc chez Carlotta Film. Et ben le livre, il est énorme. Hein. C'est un gros pavé. Je vous avoue que ça a été ardu d'essayer d'en lire les trois quarts avant l'émission, parce que c'était très chargé. Alors en plus, l'écriture est parfois assez dure. Hein. Comme disent les jeunes, il y a du level. Hein. C'est pas de la simple critique de cinéma. C'est bien, c'est pas bien. Hein. Ça va bien au-delà de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre débute. Alors, il y a d'abord une préface de Charles Tesson, des Cahiers du cinéma. On connaît tous, hein, mais il y a aussi, dès le début du livre, et ça c'est très intéressant, un lien avec le colonialisme et son influence, son rôle dans le développement du cinéma philippin. Évidemment, lui, il fait un retour sur les maîtres du cinéma philippin. Alors, on va croiser Lino Broca, dont on a déjà parlé dans cette émission, Mike De Leon, dont on a déjà énormément parlé dans cette émission parce qu'on aime beaucoup, Eddie Romero, dont on connaît surtout en fait en Occident... ses films les plus bis, hein, Le médecin démon de l'île de sang, un film de savant fou de 69, le Whip, le Woman in Prison, Black Mama, White Mama de 73 avec Pam Grier. Mais en fait, il a une autre carrière, hein, ça on le découvre dans le livre. Et puis, il y a un chapitre complet sur Ishmael Bernal. Alors lui, il est inconnu de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc ça, c'est une vraie découverte. Même si on a encore plein de choses à découvrir sur les autres cinéastes qui sont abordés dans ce livre. Et puis, en filigrane, dans ce bouquin, il y a aussi une biographie de Nick De Ocampo qui se dessine, comment il a acquis sa science du cinéma, entre autres à Paris d'ailleurs, et comment son seul horizon cinématographique a été celui de la révolution, ça a été celui du cinéma de lutte, de se diriger vraiment vers un cinéma combatif, un cinéma de lutte. Alors les écrits, comme je le disais tout à l'heure, sont parfois ardus, c'est pas dénué d'une certaine forme de poésie, et ces essais dénotent une forte personnalité. Je vais laisser notre ami Johan Chanoir nous dire lui ce qu'il pense de l'ouvrage et de Nick De Ocampo.
Alors, il s'agit d'un très très bon livre, hein, sur un cinéma qu'on ne connaît pas, voire peu ou pas du tout, hein, parce que bon, malheureusement, il est mal distribué, pas très distribué en France. Alors moi, ce qui m'a vraiment passionné dans cet ouvrage, hein, c'est en fait sa problématique, à savoir comment on peut faire un cinéma politique dans le système et en marge de celui-ci avec des conditions contraires, hein, comme notamment, hein, sous la dictature des Marcos. Et donc ça se trouve très très intéressant, et ce qui explique un peu d'ailleurs le sous-titre, hein, entre répression et subversion. Et le deuxième point très très important, enfin très intéressant, que j'ai trouvé, c'est le séquençage chronologique qu'il propose, l'auteur, dans Nick De Ocampo, à savoir qu'entre 45 et 60, il y a le cinéma mainstream. À partir des années 60, bon, les studios s'effondrent, sont en très grande difficulté, et se développe très fortement un cinéma indépendant, avec, là vous allez voir, les lecteurs vont adorer, hein, cette reprise de films hollywoodiens, notamment les comédies érotiques, les films érotiques, hein, qu'ils appellent les bombas. À partir de 72, donc c'est la dictature Marcos jusqu'en 1986. Donc là, c'est un cinéma qui est comprimé, hein, c'est une période de compression totale, hein, du cinéma philippin. Faire un film, c'est un acte militant, mais c'est aussi un acte dangereux. Et ça, l'auteur l'explique très très bien avec ses différents contributeurs. Et puis enfin, c'est aussi un livre très moderne, parce qu'à partir des années 90, c'est l'irruption du numérique et le développement du cinéma alternatif, dans lequel il propose une définition, hein, que j'invite les lecteurs à connaître. Donc je trouve ça très intéressant, hein, c'est à la fois vraiment une réflexion très théorique sur le cinéma. Il utilise des concepts, hein, de Deleuze, même l'histoire de contre-cinéma, ça vient de Claire Johnston, hein, qui parle d'un cinéma féministe dans les années 70. Puis, comme a dit Jérôme, hein, c'est aussi un livre, hein, on va dire, sentimental, hein, le parcours d'une vie, le parcours d'un cinéaste, comment il est venu à aimer le cinéma, à faire du cinéma. C'est vraiment un livre qui s'impose.
Et donc j'ai pu le rencontrer entre deux séances comme ça pour lui poser 3-4 questions à Nick de Ocampo, qui est un personnage très attachant, qui est très drôle, et il nous raconte un peu leur rapport à sa violence, et aussi il nous fait quelques petites confidences.
La voix française de Nick de Ocampo est assurée par Eric Sosso.
You can look at violence in the movies in many ways. One, in the conventional, traditional cinema, it is a source of big profit, of big money.
C'est un thème récurrent au cinéma, mais il y a aussi une violence qui se déroule dans nos sociétés actuelles, mais qui n'est pas représentée de façon franche à l'écran, car le gouvernement exerce une censure. Alors, en tant que cinéaste, quel côté choisir? Si vous voulez devenir riche grâce à la violence, alors faites des films commerciaux. Au contraire, comme dans mon cas, on fait des documentaires. On montre la violence. Plusieurs de mes films sont vraiment violents, mais parfois, il est surtout nécessaire de montrer la violence dans le bon contexte, dans le bon ordre social, parce qu'il y a de la violence dans la société et pas uniquement dans les films. C'est une différence importante que doit faire un cinéaste. J'ai grandi dans une société philippine qui était violente, guerre, révolution, coup d'État. Je les montre dans mes films. Cependant, il s'agit du genre de violence qu'un gouvernement militaire ou n'importe quel gouvernement peut-être ne voudrait pas que le public comprenne d'où vient cette violence, pourquoi il y a de la violence, pourquoi elle fait des victimes, que ressentent les victimes, que fait-on de la violence. C'est cette partie difficile que j'ai choisie. Je reconnais la violence, mais c'est une violence provenant de ma société. Et si je montre de la violence dans mes films, ce n'est pas moi qui l'ai mise en scène. Ce n'est pas un fruit de mon imagination, c'est la réalité que j'essaie de montrer. Il y a une source, une généalogie, un début à cette violence, qui est la réalité parce que je réalise des documentaires.
But this is, you know, a kind of violence that a military government, or maybe any government for that matter, do not want to be fully comprehended and understood. Where is that violence coming from? Why is there violence? And why are there victims? And why, you know, what do they feel as victims? And what can we do with violence? So this is the difficult path that I took, that I recognize violence, but it's a violence coming from my society. And if I see and I show violence in my screen, it's because I did not make it up. It's not a fantasy. It is reality that I try to show in my film. So there is a source or a genealogy, a beginning, a source of that violence. And it is, first of all, reality, because I make documentaries.
Mais je voulais parler de la violence que vous ressentez, celle dont vous parliez hier soir, et qui est la raison pour laquelle vous faites des films.
Yes. So there is a very strong psychology, which is not discussed by critics, by...
Il y a une forte psychologie qui n'est pas abordée par les critiques, par beaucoup de gens à propos de la psychologie de ce qui est représenté dans les films. Pourquoi faisons-nous ce genre d'images dans un film? D'où viennent-elles? Quand je me penche sur mon cas, j'ai été victime de violence, alors mes films proviennent d'un traumatisme. Un traumatisme ne vient pas de la sérénité. Un traumatisme est issu de la violence. Par conséquent, le problème que j'ai, comment je peux confronter, comment faire face à la violence qui m'a conçu? Faire des films est ma façon de regarder dans un miroir, de tourner la caméra vers moi et de déclarer ce que sont les sources de ma violence. Autrement, je suis une personne pacifique. Je suis en paix maintenant parce que j'ai confronté à ma violence, parce que je l'ai regardé dans les yeux. J'ai fait face à mes traumatismes, en d'autres termes. L'aspect intéressant est que je devais confronter la violence d'une façon cinématographique qui me permettait de comprendre quelles sont exactement ces forces qui essaient de me façonner. Mais est-ce que mes films sont violents? Il existe une violence psychique. La violence est dans l'esprit. Parce que j'ai déjà été menacé. À l'âge de 17 ans, je me sentais devenir fou. On m'a injecté 100 mg de tranquillisant pour me calmer. Je me cognais la tête contre le mur. J'avais de la violence en moi. Je suis content que vous me posiez cette question parce que cette violence se rassasiait, se nourrissait de moi, elle me détruisait. Et l'art, le cinéma est venu à mon secours. J'ai été capable d'avancer, de me regarder en face, ce que je n'arrivais pas à faire à part ressasser des choses. Je tournais réellement en rond dans ma tête. Les psychiatres ont réellement vu des symptômes indiquant que je devenais fou. Je ressassais des choses. Je me cognais la tête contre les murs. J'en étais conscient que j'étais violent. Comment pouvais-je échapper à moi-même? Alors, j'ai découvert l'art. Cela paraît naïf, mais c'est pourtant vrai. Maintenant, je lis de la violence dans la littérature. Hamlet voulait tuer son propre beau-père. Dans Le Roi Lear, par exemple, il y a des meurtres. Il y a tellement de violence dans la littérature. Alors pourquoi pas au cinéma? Mais la façon dont elle est montrée au cinéma sert de profit, de divertissement. Ce n'est pas mon credo. Je m'intéresse surtout à la violence psychologique.
My head bangs on the wall with blood and everything. You know, I was conscious that I was violent. How could I get away from it? Then I discover art. It sounds nice, but it's true. Now I read violence in literature. Hamlet wanted to kill, you know, Hamlet wanted to kill his own stepfather. King Lear, you know, the entire kingdom wanted to kill king. There's so much killing and violence in literature. Why not in cinema? But the way they use in cinema, it's for profit, it's for entertainment. I don't go for that. Me, I have to. It's psychological violence that I deal with.
En tant que cinéaste queer, était-il difficile de l'être à l'époque et de parler de personnes queer?
Absolutely, absolutely. Because we always have to talk about the commercial movie industry.
Absolument, parce que nous devons tous parler de l'industrie cinématographique commerciale. Il existe des queers. Il est faux de dire qu'il n'existe pas de représentation ou d'image queer dans le cinéma philippin. Il y en a. Lino Broca l'a montré. Mais Lino Broca est sérieux dans sa représentation des gays, mais il existe de nombreux réalisateurs qui sont commerciaux, qui font rire les spectateurs avec des gays qui sont toujours stupides, qui sont toujours bizarres. Pourquoi sont-ils bizarres? Je ne suis pas bizarre. Mais comment était-ce difficile? Même avec Lino Broca, il y a eu un malentendu, parce qu'il fait des fictions et moi des documentaires. Et j'ai un problème idéologique à ce propos. Il était payé pour réaliser des fictions. Aussi sérieux étaient ses films, il restait des fictions. Je fais des films à propos de vrais transgenres, de vrais queers, que je filme dans leur milieu. Voici les difficultés que je rencontre. J'ai besoin d'un permis délivré par la police pour ce film. Je ne peux pas juste sortir comme ça et filmer. Qui va trouver l'argent? Moi? Aux Philippines, à propos des queers, des films qui ne sont pas du divertissement et n'auront pas de retour sur investissement? Non, mon producteur était un Allemand. Je l'ai rencontré au Festival de Berlin après que j'étais diplômé en France. Il a investi, il m'a acheté une caméra, il m'a donné du négatif Super 8 parce qu'aux Philippines, personne n'aurait produit mes films. Même le producteur allemand était en colère contre moi. Il disait que j'ai fait un film pornographique. Je lui ai répondu non. Pour quelqu'un qui connaît le cinéma, soudainement, il prétend que mon film est pornographique parce qu'il y a ce jeune homme faisant son numéro de Spider-Man. Il n'acceptait pas. C'était en 1982-83. La conscience gay, il n'y avait pas de LGBT. Queer n'est qu'un mot, c'était gay. C'était difficile et cela a failli prendre fin à cause de l'Église catholique qui n'aime pas ce genre de film. Même ma propre famille, ils ont dit, tu es allé à Paris, tu as fait un film comme ça, allons. Ça sent mauvais, c'est ce qu'ils ont dit. Ils pouvaient sentir le film parce qu'il se déroule dans un milieu défavorisé. Ils ont dit que c'était un film horrible. Je me suis senti mal en les entendant dire que mon film est horrible. C'est le mot qu'ils ont utilisé. C'est horrible. Ils pensaient que ce qui est gay doit être marrant, beau. Mon film n'est rien de tout ça. Il parle de prostitution. Il est plein de sens. Je pense que les seuls documents sur l'homosexualité à cette époque relèvent de l'archive. Et c'est pourquoi j'en tire tant de fierté. J'ai fait un film malgré toutes les difficultés. Et voyez où il est maintenant. C'est une archive, un film historique. Et je pense que c'est important. Je suis désolé, c'est mon film, mais je devais dire ça.
Because what they think is gays must be funny, beautiful, I don't know, pretty. My film is not, you know, it's about prostitution, but it's a very rich meaning of, and it's the, I think, the only document of homosexuality of that era. It's archival. And that is where I take so much pride that I did a film against all the difficulties, and look where it is now, as an archival historical film. I think it's important. I'm sorry, it's my film, but I have to say that.
Écoutez Nick Deocampo, auteur de Une traversée du cinéma philippin entre répression et subversion, disponible chez Carlotta Film, au micro de Culture Prohibée.
No, this is where I'm lucky. There are other gays. That's why you don't see audience in the film, very little audience, because they don't want to be shown. Okay, so something that why is there that there's no audience? It's a bar, and why is it no audience? Because
non, c'est là où j'ai eu de la chance. On ne voit pas les spectateurs ou juste un peu dans le film parce qu'ils ne voulaient pas être filmés, ils ne voulaient pas montrer leur visage. J'ai eu de la chance parce que j'ai demandé à de nombreux gays s'ils voulaient apparaître dans un film. Non, ma famille va me reconnaître. Mais Oliver est un homme de spectacle, un acteur. Il adore se montrer et ça a été bon pour lui, pour la communauté gay, tous les gays parce qu'il y a un film qui parle d'eux. Mais nous avons une terrible dispute parce qu'il a dit on fait un film ou quoi? Où est mon scénario? Quel rôle est-ce que je joue? Quel est ce film que nous faisons? Il ne comprenait pas ce qu'est un documentaire. Je n'arrivais pas à lui expliquer ce qu'est un documentaire, alors je lui ai dit, je veux juste ta vie. Passons ta vie en revue, ce qui t'arrive. Je lui ai donné une cassette audio vierge, raconte juste ta vie et je choisirai ce qui m'intéresse. J'ai été chanceux avec Oliver parce qu'il voulait raconter son histoire. Pour Sex Warriors, j'ai cherché 12 gays avec qui je voulais travailler, et c'est mon producteur qui a choisi de travailler avec Johan. La scène de fin, où les personnages pleurent, le père qui sort de prison, toute la famille sauf le père savait qu'ils allaient être filmés. C'est la partie la plus délicate, mais ça s'est bien passé avec le père. Il était embarrassé, timide, à cause de ce secret de famille, que son fils n'a pas d'épouse et qu'il a abandonné sa famille. C'est ce qui est triste.
Look, even the entire family, the crying scene in the end, the father comes from the prison. You know, the whole family knew we were going to shoot. The father did not. So that's where the tricky part is. So, but the father, it was okay. You know, but he was embarrassed. You know, he was sort of shy and all that because the family secret comes out. You know, that he is not living with his own wife and abandoned the entire family. So that's the sad part. All right.
Que pouvez-vous nous dire à propos de votre court-métrage, Isaac?
Oh, it is me, but I have an avatar.
C'est moi, mais j'ai un avatar qui est Isaac. Je vois mon film Private Wars dans Isaac. Je vois ma vie dans Isaac. Je suis parti du tableau de Rembrandt. L'ange empêche Abraham de sacrifier son fils Isaac. Comme un substitut à mon cas, ce n'est pas un documentaire, mais même si ce n'est pas un documentaire, j'aborde les mêmes thèmes contre le patriarcat. Le film est gay. Ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais Isaac va avec un ange. Il quitte son père pour partir avec un ange. Ce n'est pas dans le tableau, mais c'est mon imagination gay. C'est mon droit, ma liberté, c'est ma conscience gay. J'ai pris la permission. Ce n'est plus Rembrandt, c'est Nick de Campo. C'est la version queer d'Isaac.
It's my gay imagination. It's my right. It's my liberty. It's my gay consciousness. So I took license. It's not Rembrandt anymore. It's Nick de Ocampo, the queer version of Isaac.
Et vous-même, vous êtes catholique?
I am very
catholic. Oui, je suis très catholique. Je vais prier ce soir avant de manger.
Pray before I eat. Yeah.
Donc, on peut être gay et catholique.
Yes, I agree. But the Vatican, you know, the Pope before is okay.
Oui, bien sûr. Mais le Vatican, vous savez, le pape précédent était d'accord, mais il a dit quelque chose. On peut pardonner les gays, mais on ne peut pas pardonner l'acte. L'Église ne peut pas tolérer l'acte gay. Comment puis-je être gay si je ne peux pas sucer? Oh, je suis désolé. Vous censurerez ça de toute façon. Je veux dire, c'est difficile l'hypocrisie à ce propos. Mais je sais que le pape François était prudent. Il ne pouvait détruire des siècles d'orthodoxie. Mais je sais que Saint François, oh, j'ai déjà appelé Saint François, mais c'est le pape François. Son cœur était droit, il comprenait les gays, mais l'Évangile n'accepte toujours pas. Je crois, et c'est ce que je veux, je suis catholique et je suis gay, et je veux pouvoir vivre ainsi. Chaque jour de ma vie, je me réveille et je demande pardon. Chaque jour, je vous dis. Pouvez-vous imaginer comme c'est difficile, avant de dormir cette nuit? Pardonne-moi parce que j'ai regardé un jeune homme en me disant que je l'aime. Mes fantasmes prennent vie, c'est un péché, ce n'est pas bon. C'est tellement stupide, c'est stupide.
So every day of my life, I wake up and I ask for forgiveness. Every day, I tell you. Can you imagine how difficult that is? Every day, before I sleep tonight, forgive me. Because I was looking at one young man and I said, oh my God, I love, you know, my fantasy comes alive. That's a sin, that's wrong. It's so stupid. This is stupid.
Il n'y a aucun péché à regarder une personne et la trouver belle.
Yeah. Yeah. When I was young, 1981-82, I was in Paris. It was not yet AIDS, you know? No AIDS yet.
Quand j'étais jeune, en 1981-82, j'étais à Paris. Il n'était pas encore question du sida. J'ai vraiment apprécié mon séjour parce qu'aux Philippines, l'homosexualité était très réprimée. Je suis venu en France et j'y ai trouvé la liberté. J'ai écrit un livre de poésie à propos d'un jeune homme noir que j'avais rencontré dans un cinéma qui projetait Orfeo Negro de Marcel Camus. Je suis tombé amoureux, nous sommes allés boire un verre, nous nous sommes promenés dans les rues de Paris et nous sommes arrivés à Pigalle dans un petit hôtel. Nous étions dans une chambre du rez-de-chaussée, avec une fenêtre française, bien sûr. Le dernier souvenir que j'ai, c'est quand j'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur un jardin dans la rue. Il y avait du brouillard et je l'ai vu disparaître dans le brouillard. Oh, la poésie, n'est-ce pas? Oh, je suis désolé. Je suis gay, c'est moi, je suis comme ça. J'étais amoureux du français. Il était noir, mais l'amour n'a pas de couleur. J'ai continué à écrire et à écrire. J'ai une grosse quantité de livres. Pour Philippe, je ne vous dirai pas son nom de famille, son prénom est Philippe.
There was fog, it was opening up to a garden and the street. It opened and he disappeared in the fog. Oh, poetry, isn't it? Oh, I'm sorry. I'm gay, this is me, this is who I am. I was in love with a French boy, black as he was, but it's no color. Love has no color. So I keep writing and writing. So I have a volume of books. For Philippe. I'm not going to tell you his last name. His name is Philippe. What? All right. Thank you. I don't know where.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, avec un petit coup de main de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, en studio. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. L'équipe de Culture Prohibée remercie Émilie Barbin, Isabelle Buron et Lucie Mautier pour leur aide sur cette émission. Salut les gens, à la prochaine. Ses grands yeux.